Nous vous saluons tous, frères et sœurs, où que vous vous trouviez, alors que vous êtes rassemblés avec nous pour servir en cette matinée le Seigneur. C'est merveilleux de pouvoir savoir que nous sommes rassemblés physiquement dans cet auditorium et que, au-delà, tant de personnes sont rassemblées dans différentes régions, différents pays, même quatre coins de la terre, et que nous puissions partager ces moments ensemble. Et nous remercions le Seigneur pour les différents moyens technologiques qu'il nous donne, que ainsi il soit possible que nous puissions diffuser ces moments et cette réunion de manière large. Nous avons un certain nombre de personnes qui d'habitude suivent par live stream, mais aujourd'hui certains de ceux qui d'habitude nous suivent à distance sont là avec nous et nous voulons spécialement leur souhaiter la bienvenue, en particulier les visiteurs d'Allemagne. Donc nous voulons leur souhaiter à chacun, chacune la bienvenue. Et peut-être qu'il y en a d'autres aussi, d'autres pays. Et alors, nous voulons souhaiter la bienvenue à chacun et chacune. Aussi, vous qui vous nous avez rejoints pour la journée, c'est une grâce. Et que vous ayez pu venir aujourd'hui nous visiter et que vous soyez aussi les bienvenus. Alors il y a une chose qu'il nous faut dire et rappeler, et que la conférence de jeunes se rapproche à grands pas. Et j'ai confiance que nous ne sommes pas oisifs avec tous les préparatifs que nous devons faire et aussi avec les invitations, que chacun puisse aussi participer à l'envoi des invitations, que puisse inviter des personnes. Pour rappel, pour ceux qui viennent de Mapumulo, vous devez remplir, donc pour ceux de la région de Mapumulo, vous pouvez déjà remplir le nouveau formulaire qui est demandé par les autorités et que vous puissiez remplir ce formulaire en avance auprès d'une personne qui a été indiquée. Merci beaucoup. Nous voulons prier encore, fermons les yeux. Notre Seigneur, alors que nous sommes rassemblés ensemble pour écouter ta parole, accorde-nous des cœurs désireux et ouverts à ce que tu veux nous dire. Tu connais les besoins de chacun. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses agir puissamment parmi nous, que tu puisses accomplir le but, l'objectif, le but que tu t'es fixé avec chacun aujourd'hui. Nous demandons de bien vouloir bénir les chants de la chorale, bénis aussi la lecture de ta parole. Seigneur, nous te prions aussi que tu puisses accorder à ton serviteur la force pour dire, pour annoncer ce qui vient de toi alors que nous sommes assis et à écouter. Nous demandons, Seigneur, en ayant confiance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, pour rappel, durant la conférence de jeûne, donc ça sera le premier dimanche de la conférence de jeûne, nous aurons le dimanche 11 un événement particulier qui impliquera tout le monde. Un événement où nous voulons remercier ensemble avec le Seigneur, nous voulons remercier le Seigneur pour les 70 ans de ministère du pasteur Stecken. Alors tout le monde est invité et que nous puissions nous souvenir aussi en prière de cet événement. La chorale va chanter deux chants. Le premier sera en afrikaans. C'est un chant de louange qui dit « Louez le Seigneur, accordez-lui, apportez-lui votre louange, parce que c'est lui qui nous accorde la vie, qui nous a donné une nouvelle vie et qui nous a mis sur le chemin vers le ciel. » Le deuxième chant sera en zoulou, qui dit « Seigneur, j'étais mort, mais tu es venu et tu m'as donné la vie. Tu as changé toutes choses dans ma vie. » Là où j'étais dans la mort, tu m'as donné la vie, tu m'as accordé la vie. Et maintenant, je suis en chemin pour ma demeure éternelle. Et j'attends avec impatience d'arriver, parce que là, je pourrai louer et adorer le Seigneur Jésus.
Oh, yeah.
Nous voulons prier. Seigneur, nous avons déjà prié, mais nous prions à nouveau pour que tu puisses bénir ta sainte parole, que des fleuves d'eau vive puissent couler de cette parole. Tout vient de toi, mais comme nous l'avons déjà prié, accorde-nous un cœur attentif, réceptif pour entendre ce que tu veux nous dire. Nous te prions, Seigneur, aussi pour nos aînés, pour nos dirigeants. Nous prions en particulier pour le pasteur Stegen, en particulier ce matin. Et que tu puisses le renouveler, le fortifier. Et nous voulons te remercier que nous l'ayons encore. Approche-toi de lui, garde-le, et qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Nous te prions cela, Seigneur. Et partout où ta parole est annoncée, ta parole de vérité, Seigneur, les temps sont courts et que tu puisses te révéler. Puisse agir, Seigneur, dans les cœurs. Tout cela, nous le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Jésus qui a même ressuscité les morts. Amen. J'espère ne pas faire la mauvaise chose, mais je voulais juste rappeler la fin de l'école, donc l'assemblée ou la clôture de l'école. cette semaine. Si vous êtes dans les parages, venez avec nous, rejoignez-nous, alors que nous voulons louer et remercier le Seigneur d'avoir gardé les terminales tout au long de ces années et qu'ils aient pu terminer leurs études, leur année scolaire. Il y a quelque temps en arrière, quelqu'un est venu vers moi et m'a partagé ce qu'elle avait sur le cœur. Est-ce que ça ne t'arrive pas aussi que quelques personnes viennent vers toi, partagent ce qu'elles ont reçu de la part du Seigneur, ou est-ce que tu es trop grand, trop orgueilleux à tes yeux, trop grand pour même avoir une oreille attentive à ce qui est dit? Pour moi, c'est un privilège. Et ces derniers jours, quelqu'un d'autre est venu me voir et m'a partagé exactement la même parole, les mêmes pensées. Et pourtant, ces deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas de relation entre elles. Donc deux personnes complètement différentes. Et alors, c'est ce qui est sur mon cœur que je souhaiterais partager ce matin. Une parole qui est connue, très connue. Donc ne commence pas à éteindre ton esprit en se disant « Tiens, je connais déjà ». Non, peut-être cette parole est spécialement pour toi ce matin. Un passage qui se trouve dans Genèse 25, verset 29, c'est l'histoire de Ésaü. Genèse 25. C'était intéressant que deux personnes différentes aient eu la même parole sur le cœur. Peut-être le Seigneur veut nous réveiller, veut nous rappeler cette parole et veut créer, veut faire quelque chose de nouveau dans notre cœur. Donc j'aimerais aussi dire la chose suivante. Il y a de nombreuses années, quand j'étais beaucoup plus jeune, et si je dis la chose suivante, c'est pour une raison. Je n'aimais pas parler de cette parole. Et je dois le dire, que je n'aurais pas pu prêcher sur cette parole. Vous savez, parfois, quand vous lisez la parole de Dieu et vous avez des versets qui vous secouent jusqu'au tréfonds de votre cœur, et il doit en être ainsi. Les paroles qui vous secouent. Et à l'époque, le diable me soufflait à l'oreille que j'étais ce Ésaü. Mes frères et sœurs, vivre sous cette condamnation, c'est quelque chose qui est difficile à exprimer, à expliquer avec des paroles. Mais avec le temps, j'ai appris qu'une personne qui méprise la parole de Dieu, qui se dit « Ah, mais de toute façon, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas concerné, alors laisse-moi te dire, prends garde à toi si tu penses une telle chose. » Peut-être toi, tu penses « Ah, cette parole n'est pas pour moi. » Mais si tu méprises la parole de Dieu, si tu méprises lorsque Dieu te parle, si tu n'écoutes pas lorsque Dieu te parle, alors prends garde. Fais bien attention à toi. Donc aujourd'hui, je prêche sur ce sujet avec joie et liberté. Et si je peux le faire, c'est parce que lorsque le Seigneur sauve et aide quelqu'un, quel privilège, quelle grâce. Alors lisons et laissez-moi exprimer ce que d'autres ont donc partagé avec moi. Quelles sont les autres pensées par rapport à ce sujet ? Mes frères et sœurs, ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. La parole de Dieu est sérieuse, c'est quelque chose d'important. Si tu as lu la parole de Dieu depuis peut-être des années et que cela ne change rien, cela ne fait aucune impression sur ton cœur, alors prends garde. Donc, Genèse 25, à partir du verset 29, je lis dans la version Semeur. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs épuisé. Ésaü lui dit : Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. D'où le nom Édom, le roux, qu'on lui donna. Et Jacob, vous savez peut-être que ça faisait longtemps qu'il attendait cette occasion. Et voilà ce qu'il répond au verset 31. Mais Jacob lui dit : Alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné, ton droit d'aînesse. Verset 32, Ésaü répondit : Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ? En anglais, il dit : Qu'est-ce que mon droit d'aînesse ? Quelle valeur mon droit d'aînesse a-t-il ? Lorsque vous êtes face à une décision de dire de pécher ou de ne pas pécher, est-ce que tu vas succomber parce que tu vas dire « Oh, je suis fatigué, je suis épuisé, je ne peux pas résister » Est-ce que tu vas aussi vendre, céder ton droit d'aînesse ? Verset 33, Jacob insista « Promets-le-moi tout de suite par serment ». Alors Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Verset 34. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea, but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Droit d'aînesse, rappelez-vous, en Israël, dans cette culture, c'était le droit d'aînesse lui donnait le droit divin d'hériter de l'ensemble des biens de son père. Et j'aimerais rajouter, pour clarifier qui était Ésaü, j'aimerais juste rajouter un autre passage qui se trouve dans Hébreux 12, qui donne un éclairage sur Ésaü. Donc c'est Hébreux 12, verset 16, « Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité » En anglais, il dit « dans les péchés sexuels » ou « qui méprise les choses saintes » comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. En d'autres termes, quelqu'un qui est immoral sexuellement et qui est sans Dieu, qui rejette Dieu, Il méprise les choses saintes. Ce n'était pas le seul. Rappelez-vous, Ève se tenait dans le jardin d'Éden et Dieu lui a dit « Ne mangez pas ». Il y avait donc de la nourriture qui était impliquée. Et qu'a-t-elle fait ? Elle a aussi cédé, vendu cette place dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, Judas était assis à table avec le Seigneur, à partager un repas. Et Jésus a dit, « Celui qui mange le morceau avec moi, voilà celui qui me trahira. » Peut-être cela nous montre, peut-être nous pensons à la nourriture physique, mais cela nous montre aussi la dimension spirituelle, de la nourriture spirituelle que nous mangeons. Ce que le corps désire, quels sont les désirs du corps, ce à quoi tu prends part, les désirs, les envies. Ces envies, ces désirs qui émanent de notre nature terrestre. Et vous voyez la relation. Si tu fais ce que ton corps, ta chair désire, si tu prends part à la nourriture que ta chair désire, alors c'est là que le mal est fait. David a écrit, a dit dans le psaume 23, « Le Seigneur dresse une table garnie en face de mes ennemis. » Mais le diable aussi dresse sa table avec sa nourriture. Alors la question se pose, de quelle table te nourris-tu ? Tu ne peux pas manger la nourriture du maître et la nourriture de l'ennemi. C'est peut-être pour cela que tu es ainsi spirituellement. Voilà. Que tu sois. Voilà pourquoi tu ne fais pas de progrès spirituellement. Voilà pourquoi ta vie spirituelle est sens dessus-dessous. Quand Ésaü est né, la Bible nous dit qu'il était roux. Et nous avons lu comment il a été nommé, surnommé Édom à cause de sa couleur, roux. Et nous avons lu aussi qu'il a mangé de ce roux, des lentilles rouges. Nous savons que ces lentilles rouges étaient un produit d'Égypte. C'est ce qu'ont dit les commentateurs, que les meilleures lentilles venaient d'Égypte, les meilleures productions de lentilles. Et voilà ce que beaucoup de personnes aiment. Spirituellement, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Rappelez-vous ce après quoi ils désiraient. Ils désiraient la nourriture de l'Égypte. Ils avaient envie, des envies de nourriture qui venaient d'Égypte. Vous voyez, voilà la nature humaine. La nature humaine a les désirs, a des penchants pour de la nourriture que l'être humain n'est pas censé prendre part. Est-ce que tu as ce désir en arrière ? Pose-toi la question. Est-ce que tu as toujours ce désir de retourner en arrière ? Quelqu'un a dit, et je cite cette personne, aujourd'hui, à travers le monde, le lien vers ce porridge rouge ou ce roux est toujours présent. Et je cite, cette personne dit, ce roux rouge est le socialisme ou le communisme. Allons-nous échanger notre héritage divin pour ce roux-là, pour ce plat préparé par d'autres en échange de ce que Dieu nous a donné. Il n'y a rien de plus rouge et de plus méchant que le communisme, et c'est quelque chose qui veut envelopper le monde entier. C'est pourquoi nous voulons rappeler, est-ce que nous voulons échanger notre héritage, nos valeurs chrétiennes pour ce roux-là, pour ce potage? C'est quelque chose qui est poussé par une certaine élite de ce monde. Ce sont des idées, des valeurs qui sont poussées par un certain nombre de personnes. Karl Marx, une citation de Karl Marx où il a dit « Je veux attirer et emmener tout le monde avec moi en enfer et une fois qu'ils seront là, je rirai. » C'est intéressant de voir qu'ils ont choisi cette couleur du rouge. Rappelez-vous, c'était aussi la couleur du sang de Christ. Et n'était-ce pas quelque part pour souiller la couleur du sang de Christ? N'est-ce pas une coïncidence? Est-ce une coïncidence que Ésaü est associé à cette couleur roux? Il est dit qu'il était roux. Excusez-moi, mon téléphone vibre. Les gens vous appellent pendant la réunion. Et donc, Ésaü était connu. C'était son surnom, le roux, le rouge. Et si vous regardez d'un peu plus près, si vous examinez, et en étant roux lui-même, il est dit qu'il était attiré ou qu'il avait une envie de ce potage roux. Alors, rappelle-toi, tu vas être attiré par des choses du monde qui sont le reflet de ce que tu es, toi. Et tu vois toujours chez les autres ce que toi, tu es. Exactement ce que tu es. Tu vas être attiré par les choses de ce monde, les choses même qui sont ta nature. C'est pourquoi que Christ a dit, lorsqu'il vient, il fait toutes choses nouvelles. Tu vas être attiré par les choses qui sont le reflet, par ce que tu as dans le cœur, par ce qui t'attire. C'est pourquoi, de la même manière, tu es attiré vers les personnes qui sont de la même nature que toi. Si tu aimes médire, alors tu vas être attiré vers les personnes qui médisent. Si tu es attiré vers les personnes qui prennent de la drogue, alors tu vas être attiré parce que c'est quelque chose qui est déjà dans ton cœur. Est-ce que tu comprends cela? C'est très important que nous comprenions cela. Parce que nous aimons pointer du doigt les uns les autres. Mais lorsque nous pointons du doigt, cela n'est que le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. Et donc, Ésaü a été attiré, il a eu envie de ce potage, de cette soupe. Si tu es attiré par les choses tièdes, cela n'est le reflet que toi-même tu es tiède spirituellement. Si tu es rouge, incandescent pour le Seigneur, alors rappelle-toi qu'une mouche ne peut pas se poser sur quelque chose d'incandescent. Rappelez-vous, une mouche ne va jamais se poser sur quelque chose d'incandescent. J'aime lire certains passages, je n'ai pas obligé de tourner notre Bible, mais nous lisons en Romains 8. Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Pardon, je suis trompé. Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. C'était Romains 8, versets 12 et 13. L'apôtre Paul écrit de manière claire que tu peux prendre part à ces choses de la chair, mais alors tu mourras. Mais si on prend part aux choses de l'esprit, alors nous vivrons. C'est ce que Paul lui-même écrit de manière tout à fait claire dans ce passage. Vous savez, ce n'est pas étonnant que Ésaü soit venu en disant « Je suis fatigué, épuisé par ma journée de chasse. » Peut-être que tu es comme Ésaü, tu dis « ça fait combien d'années que je bataille, que je chasse, que je lutte contre la chair. » Et alors tu abandonnes. Et comme Ésaü, en prétextant d'être épuisé, il a cédé à la chair et il a pris de ce potage. Et comme nous l'avons lu dans Hébreux, qu'il n'y a personne qui vive dans l'immoralité sexuelle. Intéressant qu'il y ait ce lien entre les choses saintes et l'immoralité sexuelle. C'est pour ça que le diable est tant affairé avec les jeunes gens pour les attirer dans spécifiquement ce péché de l'immoralité sexuelle. Parce qu'il y a un lien fort entre cet aspect et les choses. C'est pourquoi nous prêchons de cette manière. Et rappelez-vous que ce passage, cette histoire du roux, du potage d'Ésaü, ce n'était pas la finalité. Les choses était en œuvre depuis un certain temps déjà. Les Juifs ont encore aujourd'hui une tradition en rapport avec la vie d'Ésaü. Écoutez, vous entendez ? Ésaü était connu par les Juifs à cause de la vie qu'il a menée. Vous savez, il y a quelques jours, ou peut-être hier, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui, pendant des années, a refusé que sa femme rejoigne, participe à une église. Il ne voulait pas. Cet homme ne voulait pas que sa femme vienne et rejoigne cette mission. Et pour raccourcir l'histoire, cet homme a eu un accident. Et dans le cours de l'accident, il a perdu une jambe. Mais voilà la chose intéressante de cette histoire. Et à un certain moment, le pasteur Steglen, en Clairlo, a eu la pensée d'aller à un certain endroit. Donc il a eu à cœur d'aller à un certain endroit, un certain jour. Et qui est-ce qu'il a rencontré ce jour-là ? Cet homme-là. Cet homme qui était allé à l'encontre de ce que Dieu désirait. Et il a perdu sa jambe dans le processus. Et alors que Pasteur Steglen était en route, il a rencontré cet homme qui avait une crevaison. Alors le pasteur Steglen s'est arrêté et cet homme lui a dit: « Pasteur, comment as-tu su que j'étais là ?» Et cet homme alors courbait les chines en disant: « Seigneur, comment est-ce que je peux continuer à aller contre toi ?» Et alors qu'il a eu cette opportunité, il s'est repenti d'aller à l'encontre de ce que Dieu voulait. Donc, revenons à l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Ésaü était celui qui partait à la chasse, qui chassait le gibier. Les traditions juives disent que ce jour-là, alors qu'il était dans les champs à chasser, il a fait des choses mauvaises, des choses terribles. Et ce n'était pas ce jour-là seulement. Cela était le reflet de ce que Ésaü vivait jour après jour, en méprisant les choses saintes, comme il est dit. Continue à mépriser la parole de Dieu et tu, laisse-moi te dire, tu prendras une bonne gifle sans savoir d'où elle vient. Mais continue à mépriser la parole de Dieu et tu verras ce qui te passera. Donc une des choses, laissez-moi mentionner une chose que la tradition juive dit par rapport à cette histoire. Isaac envoyait son fils Ésaü chasser, et alors que son père pense qu'Ésaü est en train de chasser, Ésaü, au lieu de chasser le gibier, a couché avec une femme qui était fiancée. C'est ce que la tradition juive. Alors imaginez, Isaac pense que son fils est en train de chasser à sa demande, et plutôt qu'il obéisse et il fasse ce que son père lui demande, il est affairé avec d'autres choses. Nous savons comment Ésaü, plus tard, s'est marié avec des femmes étrangères au grand déplaisir de ses propres parents. Et il était désobéissant. Il faisait exactement ce que les parents ne voulaient pas. C'était comme un fil conducteur tout au long de sa vie. Il était incapable de se humilier, d'accepter. Alors, frères et sœurs, prenons garde. Si quelque chose semble bon, bon à voir, bon à la vue, bon au goût, pour manger, alors prends bien garde. C'est pourquoi Paul nous encourage en disant « Soyez morts à ces choses, tuons ces choses dans notre vie. » Ésaü vivait sa propre vie, faisait ce qui lui semblait bon. La tradition juive nous dit qu'il a même tué ce jour-là. Il a commis idolâtrie. Ils disent qu'il a désiré tuer son propre père et tuer son propre frère. Voyez, une personne qui se croit, qui se pense le plus vieux, une personne qui pense à toujours être le premier, qui pense que tout lui appartient. Alors une telle personne veut même prendre par la force les choses qui lui sont destinées. Ainsi aussi encore. Ésaü allait recevoir cet héritage, mais il voulait forcer d'en recevoir l'héritage. Il en est ainsi de même. Vous avez des personnes qui en viennent à tuer leurs parents, à tuer leurs grands-parents pour recevoir, hériter d'eux. Et l'esprit, le démon, tel d'esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui. Ésaü ne faisait que ce qu'il avait envie. C'est quelqu'un qui, comme beaucoup, dit « Qu'en est-il ?» Et nous lisons qu'il était épuisé physiquement, mais son esprit et son âme étaient très certainement aussi épuisés, fatigués. Il a dû avoir de l'amertume dans son cœur. Et il faisait et désirait ce qu'il avait envie. N'est-ce pas la réaction de certains enfants qui, quand les parents demandent quelque chose, alors trouve toutes sortes d'excuses et développe de l'amertume en disant « Mes parents ne m'aiment pas, mes parents ne me laissent pas faire, mes parents ne veulent pas que je fasse ceci ou fasse cela. » Et alors, il développe une amertume. Et rappelez-vous ce que la Bible nous la racine d'ouverture est quelque chose de mauvais, quelque chose qu'on ne peut pas même comprendre. L'amertume empoisonne, détruit les amitiés, détruit des familles. Et l'amertume détruit même l'avenir, le futur de la personne qui a cette amertume. Pas étonnant qu'Ésaü n'ait pas eu d'avenir dans le plan de Dieu. Il n'a pas fait partie du plan de Dieu. L'amertume est comme un cancer. Il dévore tout, il ronge. Je peux t'assurer que l'amertume ne tuera pas la personne que tu détestes, mais cette amertume te détruira. Nous avons un docteur parmi nous pour lui demander ce que l'amertume crée. Peut-être la hypertension artérielle, toutes sortes de maladies liées au cœur. Voilà ce que l'amertume génère dans la vie de la personne qui est amère. Tu peux aller voir le docteur, tu peux lui expliquer pourquoi tu dors pas la nuit, mais ouvre ton cœur et donne aussi les raisons, ce qui te ronge au fond de ton cœur. Alors, Dietmar remarque que le traducteur a l'habitude de travailler avec le docteur, parce qu'il traduit très bien les mots médicaux. Quand d'autres pêchent contre nous, alors c'est là que peut se développer l'amertume. L'amertume est toujours basée sur l'action de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous entendez cela? Alors, qu'en est-il de ton cœur? Qu'est-ce qui se développe dans ton cœur? Lorsque quelqu'un fait quelque chose, lorsque quelqu'un dit quelque chose, alors ton cœur réagit. Et alors, c'est là qu'il te faut prendre garde. Les gens amers ne réalisent pas leur propre amertume. Et vous savez, une personne amère arrive à des conclusions en se basant sur ce que l'autre a fait ou dit, sans même que cette personne n'ait eu une mauvaise intention. Mais l'amertume alors interprète ou donne des intentions qui ne sont peut-être même pas vraies. Et alors l'amertume ronge et empoisonne la vie. Et alors tu ne crois pas que la personne n'avait pas de mauvaises intentions. Non, tu continues avec ton amertume. Et alors, cette amertume développe des racines. lorsque tu parles, alors tu... Et une personne amère, lorsqu'elle parle, elle va émettre des paroles amères aussi. Comprenez pourquoi, dans une certaine mesure, on comprend pourquoi Ésaü a développé ce mépris envers les choses saintes, ce mépris envers son héritage, pourtant qui était quelque chose qui lui était dû ou qui lui était destiné. Alors il est très important et nous ne pouvons pas assez le rappeler. C'est pourquoi le diable et le monde détestent cet aspect de la confession et de la mise en ordre du péché. Parce que c'est là l'antidote contre cette amertume, l'antidote contre cette situation dans laquelle Ésaü a terminé, a fini. Alors ne dis pas « Ah, je vais faire comme Ésaü » et parce que tu n'auras pas l'occasion de te repentir. Ésaü est arrivé à un point de non-retour. Mais le diable sait comment mettre à terre quelqu'un. Il sait comment s'y prendre. Ésaü a exprimé qu'il était épuisé. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai essayé, mais cela ne mène pas. Peut-être es-tu de même comme Ésaü, où tu arrives au point où tu te dis « j'ai essayé, j'ai tout tenté, je suis épuisé, allez, cédons à la tentation ». Rappelez-vous du psaume d'Asaph, quand il a dit « j'ai essayé, j'ai gardé mon cœur pur, et contrairement à Asaph, Ésaü a cédé à son envie. Il a cédé à ses désirs. Contrairement à Asaph dans le psaume 73. Alors Ésaü a dû penser... Ah, il peut faire avec son droit d'aînesse ce qu'il veut, parce que de toute façon, ça lui est dû. Et ainsi, peut-être s'est-il dit, j'en fais ce que je veux, puisque de toute façon, c'est mon dû. Alors, nous pourrions continuer à parler d'Ésaü, mais j'aimerais maintenant m'attarder sur Jacob. Nous lisons, nous entendons parler de Jacob en premier dans le chapitre précédent, chapitre 25. Nous avons dans ce chapitre-là l'histoire de sa naissance. C'était le plan de Dieu. Dieu connaissait Ésaü comme il connaissait Caïn. Ésaü a eu une chance, comme Caïn a méprisé et a eu une chance, Dieu lui a donné une occasion de se repentir, mais il l'a méprisé. Mais si tu prends les choses, si tu exiges en disant « c'est mon droit », alors attention, prends garde à toi, parce que ce n'est que par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas un dû. Verset 27 de chapitre 25, le chapitre précédent, verset 27, il est dit « Les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. » J'aime bien la suite de ce verset qui dit « Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. » On pourrait dire « C'était un homme normal. » Imaginez la réaction d'Ésaü. Probablement qu'il devait dire « Ah, moi je suis le chasseur, je suis capable de choses, alors que Jacob, lui, il ne fait que rester à la maison, il ne fait rien. » Alors, prends garde, si tu as ce type de réaction, si tu méprises les autres, et j'ai lu les derniers jours l'histoire de Joseph avec la tunique multicolore. Et rappelez-vous que c'est l'image de Christ. Si tu as cette tunique multicolore, alors tu le sais, tu en es conscient. Jacob était différent de son frère. Vous savez quoi ? Relisez l'histoire. Jacob désirait quelque chose avec intensité. Et Jacob a écouté sa mère. Parce que c'était quelque chose quasiment impossible d'aller présenter du gibier à son père. Mais Rebecca, la mère, lui a dit « Fais exactement ce que tu vas faire, ce que je te fais faire. » Alors rappelez-vous, enfant, si vous avez une mère stricte, alors va à genoux et remercie le Seigneur. Parce qu'une mère qui est honnête, qui est droite et juste, c'est de l'or, nous dit la Bible. C'est quelque chose qui a la valeur de l'or. C'est une grâce, un cadeau du Seigneur. Et peut-être tu es ce que tu es aujourd'hui, tu es dans la situation dans laquelle tu es, tu parles et tu dis les choses que tu dis. Peut-être est-ce à cause du mépris que tu as et que tu as eu pour l'éducation que ta mère t'a donnée, pour la manière dont ta mère t'a élevé. Rappelez-vous, la mère de Jacob ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais c'était la manière que Dieu a utilisée pour qu'elle élève ses fils de la manière que Dieu lui a donnée. Et j'ai de la peine pour tous les enfants qui n'ont pas de mère. Mais moi, j'ai eu une mère qui était strict. Je dis parfois que ma mère était comme un général. Mais en fait, c'est le cœur. Elle sait, le cœur d'une mère te connaît. Toi qui fais les choses en secret, ne te méprends pas. Ta mère, elle sait ce que tu fais derrière une porte fermée. Parce que la mère a quelque chose de particulier, un ressenti particulier envers ses enfants. Pour les pères, c'est différent. Même si certains pères voient très clair sur ce que sont et font leurs enfants. Et Jacob désirait par-dessus tout l'héritage de son père. Il désirait le Dieu de son père et de son grand-père. Alors, désire, aspire à un tel cœur. Demande à Dieu de t'accorder un cœur qui le cherche. Un cœur qui le cherche comme le cœur de ton père et de ton grand-père, à l'image de ce que Jacob a eu. Jacob a cherché Dieu. Nous savons comment même Jacob a combattu, s'est battu avec Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas la différence entre le cœur d'Ésaü et de Jacob ? Dieu désire que tu deviennes un Jacob, que tu aies le même désir, les mêmes aspirations que Jacob a eues. Regardons encore comment était le cœur de Jacob. Dieu parle à Jacob. Non, Ésaü, Dieu ne lui a pas parlé à cause du péché qu'il y avait dans son cœur. Et nous lisons plus tard comment Dieu a appelé Jacob à aller à Bethel. Dieu lui a dit, va. Écoutez ce que Dieu lui dit. Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Pars, rends-toi à Bethel, fixe-toi là-bas. Tu y construiras un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü. » Alors Jacob dit aux gens de sa famille, à tous ceux qui étaient avec lui, « Faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. » Voyez, Jacob, il a mis en ordre ce qui n'était pas juste. Il a même dit à sa propre famille, pas comme ceci, comme cela. Nous voyons un tout petit peu un aperçu de ce qu'était la vie de Jacob, de quel était son cœur, c'est chapitre 35 de Genèse. Pas étonnant que le diable ait, quand nous venons à Christ et que nous purifions nos cœurs. Laissez-moi terminer avec une histoire. Il est dit, un jour, il y avait une mère qui avait un petit enfant. Un enfant qui était avec elle après le décès du père. Et la mère aimait cet enfant, c'était tout ce qu'elle avait. Elle savait, c'est mon enfant. Mais un jour, les choses ont changé. Un homme est venu et cette femme est tombée amoureuse de cet homme. Et alors, quelque chose s'est développé dans son cœur. Et alors, vous voyez, déjà, l'amour devient divisé. Elle aimait son enfant. Oui, elle aimait toujours l'enfant, on pourrait dire l'enfant Christ. Mais il y avait cet homme de l'autre côté. Alors la question se pose, y a-t-il un homme étranger dans ta vie? Peut-être même si tu es marié. Peut-être quelque chose que tu gardes dans ton cœur. Et alors la relation entre cette mère et cet homme s'est développée. Et l'enfant était là au milieu, mais il était heureux. Et alors un jour, les deux adultes ont dit, allez, nous allons nous marier. C'est déjà quelque chose qu'ils aient désiré se marier, parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas quelque chose qui n'est pas commun? Aujourd'hui, on vit simplement l'un avec l'autre, sans aucun engagement. Ça, c'est la vie d'Ésaü. Ésaü aimait ce potage de l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi peut-être certaines personnes parlent beaucoup. Vous savez, certaines fois on se dit, certaines personnes qui parlent tant, qui ont tant de commentaires à faire sur les uns et les autres, on se pose la question si ce n'est pas pour couvrir quelque chose qui anime leur cœur, ce potage de l'immoralité sexuelle. Mais avant qu'ils ne se marient, ces deux personnes, l'homme a alors parlé à la femme. Il lui a dit, « Femme, je ne peux pas me marier avec toi tant qu'il y a cet enfant au milieu de nous. Je n'ai pas envie d'avoir à m'occuper de cet enfant. » Et alors, une telle affirmation était un choc pour cette mère. Cette femme n'a jamais imaginé qu'il était possible que cet homme ait une telle réaction. Elle pensait que cet homme allait prendre les deux, la mère et l'enfant. Mais cet homme était sérieux. Vous savez, il en est ainsi. La mère était comme cette grenouille qui s'accommode de l'eau qui chauffe, et elle s'était accommodée de cette situation, de cet homme, sans réaliser ce qui se tramait. Après quelques jours, la mère s'est habituée à l'idée de se débarrasser de l'enfant. Donc elle a échafaudé un plan. Elle a demandé alors à l'homme de l'emmener à un certain endroit. Et alors cette femme a dit à cet homme, « Emmène-moi vers ce ravin. » Alors cet homme l'a emmené au sommet du ravin. Et la mère alors a pris l'enfant. L'enfant qui ne se doutait de rien, qui ne s'imaginait rien. Un enfant innocent qui ne s'imaginait pas ce que sa mère était en train de tramer. Et alors la mère a pris l'enfant au sommet du ravin. L'enfant était joyeux, pensant que tout allait bien, pensant que ma mère m'aime. Et la mère a pris son enfant mère a pris son enfant et l'enfant s'est dit, tiens, maman, joue avec moi. Et la mère a pris le courage alors. Elle s'est dit, peut-être, je vais lancer l'enfant par-dessus bord. Mais elle a regardé l'enfant, elle a regardé l'homme, elle a tenté de lancer l'enfant, mais elle n'avait pas le courage. Vous savez, certaines femmes ont un courage que les hommes n'ont pas. Et alors la mère a regardé l'enfant et elle s'est dit, si je ferme les yeux, peut-être. Non, elle n'avait pas le courage. Alors ses yeux allaient de l'homme à l'enfant, de l'enfant à l'homme. Et finalement, elle a eu le courage de pousser l'enfant par-dessus bord. Et une fois qu'elle avait poussé l'enfant dans le ravin, elle est retournée vers la voiture pour retrouver l'homme. Et alors que l'homme, que la femme se rapprochait de la voiture, l'homme a démarré la voiture et a dit à la femme, cet homme s'est alors adressé à cette femme en lui disant, comment puis-je me marier avec quelqu'un comme toi, avec un cœur si méchant? Si tu traites nos potentiels enfants de la même manière que tu viens de traiter cet enfant. Et il est parti. Et il a laissé cette femme en plan. Et alors, elle a tout perdu, l'enfant et l'homme. Et peut-être, tu écoutes ce qu'ils disent. Et tu dis, ah, pourquoi cette femme fait une telle chose? Pourquoi t'elle fait une telle chose? Mais peut-être, tu es pareil. Peut-être toi, femme, tu as tué l'enfant qui était dans ton sein. Et tu t'es dit, personne ne me voit. Et alors, tu as tué l'enfant. Donc, Ésaü a méprisé son droit d'aînesse et il l'a donné. Il a donné ce que Dieu avait donné et il a donné à son frère, il l'a vendu. Et toi, tu es pareil, peut-être tu dis, moi, je suis chrétien, mais c'est quelque chose que je vais échanger contre le monde. Et voyez comment en un instant, Ésaü a tout perdu. Et nous de même, en un instant, nous pouvons tout perdre. Et le diable fait de même avec nous. Il vient et nous fait considérer ce que Dieu nous a donné et ce qu'il offre. Et alors tu commences à regarder à Dieu et tu regardes à la tentation, peut-être à l'alcool, à différentes choses. Et alors tu commences à te poser des questions en te posant la question « qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est mauvais ?» Et tu examines. Mentionnons ces choses afin que tu puisses examiner ta vie. Vérifie dans ta vie s'il y a quelque chose de mauvais, peut-être une amertume, une rancune. Et alors, décide toi pour te séparer, que le Seigneur puisse séparer, t'enlever ces choses afin que Christ puisse te pardonner, te purifier et que tu puisses grandir dans ta relation avec le Seigneur comme Jacob l'a fait. Laissez-moi mentionner juste un aspect sur Jacob, juste un aspect. Avez-vous déjà imaginé qu'il y ait eu la possibilité la possibilité que Jacob ait désiré le droit d'aînesse, non pas par égoïsme, on pourrait dire, ou par ambition personnelle, mais est-ce que tu as déjà envisagé que Jacob l'ait fait par sens de la responsabilité? Je n'ai jamais entendu une prédication sur cet aspect où Jacob aurait, par responsabilité, désiré ce droit d'aînesse. Nous sommes nous-mêmes égoïstes et orgueilleux, peut-être, en pensant que Jacob était orgueilleux, égoïste et qu'il désirait le droit d'aînesse pour ses raisons, pour avoir l'héritage par ambition personnelle. Mais peut-être s'est-il dit, peut-être que Jacob s'est dit, si Ésaü continue à vivre comme il vit, il va dilapider l'héritage spirituel, l'héritage d'Abraham, l'héritage d'Isaac, et alors il me faut faire quelque chose. Ne sous-estime pas le fait que Jacob était un jeune homme, était jeune à ce moment-là. Vous avez des jeunes gens qui vivent des vies divines. Et le monde ne peut pas même imaginer ou comprendre de comment fonctionne l'esprit et le cerveau de ces jeunes. Des jeunes gens à qui Dieu s'est révélé d'une manière incroyable. Et tu ne t'imagines même pas qu'il soit possible qu'une jeune personne puisse vivre une vie sainte de cette manière. Regardez, considérez la vie de Joseph. Dieu s'est révélé à lui et il lui a révélé des choses. Rappelez-vous, alors que Joseph était encore très jeune, c'était un enfant, Dieu s'est révélé à lui qu'un jour son père, sa mère, ses frères se prosterneraient devant lui. Pourquoi est-ce que Dieu a accordé ce rêve à Joseph ? Peut-être certains diraient « Ah, mais comment est-ce que Dieu, tu peux lui donner une telle révélation ? Il va devenir orgueilleux, il va devenir orgueilleux et il va se comporter de mauvaise manière en ayant une telle révélation. » Rappelez-vous, même son père, Jacob, a réprimandé Joseph en lui disant « Quoi ? Tu dis que ta mère et moi-même nous prosternerons devant toi. » Mais Dieu a dû voir le cœur pur que Joseph avait, au point qu'il était capable de lui confier un tel secret, un tel mystère, en sachant que cela n'allait pas conduire Joseph dans le péché, qu'il n'allait pas devenir orgueilleux à cause de la révélation qu'il lui donnait. Daniel était peut-être le même. Jacob, Daniel. Jacob, peut-être, était-il le même, bien que nous savons qu'il avait un nom de trompeur, ou qu'il avait un certain nombre de défauts. Mais peut-être a-t-il eu cette réaction, comme je l'ai dit, par responsabilité, en se disant « Mais si mon frère continue d'avoir ce droit d'aînesse, alors il va dilapider l'héritage spirituel que nous avons reçu de notre grand-père et de notre père. » Pour nous-mêmes, en ce qui nous concerne, nous avons des dirigeants qui ont le même cœur que Jacob. Et nous avons un leader, et nous avons des anciens qui ont ce cœur, et le monde interprète cela en disant « Non, mais ce sont des cœurs égoïstes. » Et le monde passe complètement à côté, ne comprend pas, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer comment des personnes ont pu être bénies depuis leur plus jeune âge et comment Dieu a pu se révéler, leur montrer des choses que le monde ne peut pas comprendre. Et alors on les peint tout en noir, on noircit le tableau, parce que leur action est interprétée à la lumière de ce que l'homme fait dans le monde. On s'imagine qu'il ne peut pas y avoir d'autre alternative, puisque tout le monde fait comme ça. Alors, amis, nous ne devons pas seulement dire à nos enfants ce qu'ils ne doivent pas faire. Jeunes gens, ne faites pas en sorte de simplement ne pas être comme Ésaü, mais devenez comme Jacob. Que Dieu puisse se révéler à vous d'une manière toute particulière. d'une manière mystérieuse que le monde ne peut pas comprendre, que le monde ne peut pas même imaginer. Parce que Satan est incapable de donner cette humilité désintéressée que Jacob et Joseph ont pu avoir. Tu peux recevoir les richesses, les honneurs. Le diable peut te donner ses richesses, cet honneur, mais il ne pourra pas te donner cette humilité désintéressée que Dieu accorde, cette pureté sans aucun désir égoïste. Alors prends garde, lorsque tu es en relation avec un homme ou une femme de Dieu, peut-être tu les regardes, tu les observes et tu interprètes leurs actions à la lumière de ce que toi, tu penses. Et finalement, tu ne réalises pas que, comme on dit en anglais, tu attrapes le chat par la queue. Nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour l'avertissement qui nous est donné en examinant la vie d'Ésaü. Et nous te remercions pour la bénédiction qui découle de l'exemple de la vie de Jacob. Seigneur, que tu puisses nous accorder de comprendre, de saisir ce mystère. Et Seigneur, si nous examinons nos cœurs, et si nous voyons qu'un Ésaü dans tout ce que nous désirons, dans tout ce que nous faisons, alors aide-nous, Seigneur, que nous puissions apporter cet Ésaü de notre cœur à la croix. Que nous puissions exposer, dénoncer, mettre à la lumière cet Ésaü qui se tapis dans notre cœur, afin que tu puisses nous laver avec ton précieux sang et que tu puisses nous libérer. Et nous demandons tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.